présente la 30e édition anniversaire du Festival international. L'Auto-Québec présente la 30e édition anniversaire du Festival international des Nuits d'Afrique à Montréal. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 12 au 24 juillet. Profitez des forfaits spectacles et découvrez toute la programmation sur www.festivalnuitsdafrique.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente, votre animateur, Simon Predge, et je suis en compagnie de l'effrayant Olivier Bigonnet. Comment tu vas, Lee?
Je vais super bien.
Hein? Hey, on est en feu?
C'est Noël.
C'est Noël, certain.
Noël pendant trois semaines.
Fait qu'on a invité un chroniqueur.
Tout spécial,
pour
oui.
Toute la durée du festival, mm-hmm. À moins qu'on se chicane puis que ça ne tente plus de revenir. Mais ça me surprendrait, à date on s'entend à merveille, Steven Lefrançois du podcast Horreur Gamer, comment tu vas?
Hey, salut les gars, ça va très bien, arrêtez, vous allez me faire rougir.
Bienvenue
parmi nous, eh oui. Dans le fond, là, on s'est dit, il y a tellement de films à couvrir, on sera jamais capable de tout faire. Oli a eu la merveilleuse idée, mm-hmm. d'inviter Steven, qui participait déjà allègrement, mm-hmm. au festival. Donc, bienvenue dans la gang.
Ben merci beaucoup, c'est tout un honneur de participer à l'un de mes podcasts favoris. Je sais, ça sonne des deux, mais gars.
C'est correct, j'adore me faire flatter. Hey, on a encore un gros show aujourd'hui. Mm-hmm. Tout d'abord, première chose, on a un autre invité aussi qui va se joindre à nous. En fait, oui. Deux, mais disons un et demi. Mais je vais y revenir comme il est pas encore en studio. Ouais. Donc, on a un épisode hors série qui a été lancé aujourd'hui, plus tôt cet après-midi, donc téléchargeable depuis iTunes. Il va être disponible sur le blog au courant de la soirée. Vous le savez déjà, hein, Guillermo del Toro s'est fait vu remettre le prix du Cheval Noir, mm-hmm. de Fantasia pour l'ensemble de son œuvre. Et Guillermo del Toro a été très généreux, pas juste avec le public, mais avec les médias aussi. Oui. Mm-hmm. Ce qui fait que, ben, nous, on a tout enregistré ça. Puis là, on voulait passer des extraits. On s'est rendu compte qu'il y avait ben trop de stock. Comment choisir? C'est tout intéressant. Fait qu'on a décidé de tout garder et de vous partager ça dans un épisode spécial. Donc, c'est 2 heures et, genre, je pense que c'est 2 heures et quart de Guillermo del Toro qui parle. C'est d'abord la conférence de presse, c'est suivi de la remise de prix et la conférence qui a donné après le film Creature Designers de Frankenstein Complex dans le Grand Hall Concordia pour le Festival Fantasia. Donc, téléchargez-le, hein, c'est super intéressant et soyez indulgents, hein, c'est quand même enregistré dans le Grand Hall Concordia. Oui. Donc, hein, le son est pas optimal, mais je l'ai travaillé un peu pour qu'on entende bien, qu'on comprenne bien, même les questions du public qui sont criées à travers la salle. Peut-être que dans le métro, on n'entendra pas bien, voyez que tu as des super écouteurs, mais sinon, c'est quand même assez clair, profitez-en, c'est super le fun. J'étais supposé avoir aussi une entrevue avec Lloyd Kaufman, mais m'a un petit peu coupé l'herbe sur le pied et je commence l'entrevue avec lui, on placote un peu. Et d'ailleurs, j'étais surpris, il se rappelait de moi.
Oui. Ça, on l'avait croisé vite avant.
Ça fait 12 fois que je le rencontre, là, mais je pensais pas qu'il se rappellerait de moi. Là. Je suis où de fuck est mère.
C'est quoi écouter un film avec Lloyd Kaufman, hein?
Il parle tout le long.
Oh my god.
Mais en tout cas. Mais c'est ça, je pose une question, deux questions d'intro. Puis finalement, ils sont venus le chercher pour la fameuse entrevue, mm-hmm. Les entrevues Fantasia qui sont diffusées en vidéo en direct sur Facebook. J'ai essayé de leur pogner après. Il m'a dit on se reprend tantôt, puis il était tout le temps occupé ou en salle ou de quoi, ça a juste pas donné. Fait que une autre fois. Mais c'est pas grave, je dois l'admettre, l'entrevue que Fantasia a faite en vidéo est super intéressante et je l'ai partagée sur la page Facebook des Oubliettes, sinon est sur la page de Fantasia, ça se trouve facilement, profitez-en. Et le festival Fantasia a commencé déjà depuis une semaine et ce jusqu'au 3 août. Mm-hmm. Et là on va faire des critiques ensemble, un petit retour à 3 du moins, juste à temps que notre quatrième invité débarque. Oui. On va faire un petit tour d'ensemble des films qu'on a vus cette semaine. Là, dans le fond, qui est l'invité cette semaine? On devait recevoir Hubert Gagnon, hein, doubleur québécois qui fait entre autres la voix de Homer Simpson, mais aussi il a fait la voix de Mel Gibson, il a fait la voix de Christopher Walken. Mm-hmm. Mais là, au final, aujourd'hui, on allait parler des doublages insolites parce qu'il a fait de la voix dans La Patrouille en folie.
Oh boy.
Ski Patrol avec des skieurs et des snowboarders qui s'envoient en l'air. Là.
Ouais.
Puis, on va parler avec lui. Malheureusement, sa jambe est encore trop douloureuse. Il pouvait pas se déplacer aujourd'hui, mais on va le rejoindre par téléphone. Et avec nous, on devait avoir Marc Lamotte. En fait, il est pas loin. Il est à... il semble qu'ils ont terminé. Ils sont à peu près à 5 mètres de nous. Dans le studio B de Choc, on a le 7e antiquaire qui est en train d'enregistrer leur épisode en compagnie du réalisateur Larry Kent pour le film Fleur Bleue. Puis Marc est là. Fait qu'il est juste là, il s'en vient là. Ils sont en train de terminer leur pré-enregistrement. Puis Marc s'en vient nous rejoindre d'ici peu. Sur ce, ben, je vais appeler Hubert Gagnon. Ça sera pas bien long.
Bon, ben écoute, en attendant que tu fasses ça, cette semaine, moi personnellement, j'étais sur un nuage avant de rencontrer Guillermo del Toro, conférence de presse. Je me sens tellement cave un peu parce que puis Simon était assis à côté de moi. Ça m'a pris 30 minutes avant de me décider de lever ma main pour poser une question. Puis tu sais, aussi, dans une conférence de presse, je pense que tout le monde au départ était quand même assez nerveux. Personne ne levait sa main, vraiment, parce que tout le monde était nerveux. Puis là, rendu à la fin, bon, on voit que le gars, il est cool, il est très humble, il est hyper intelligent. Puis finalement, ben quand est venu le temps de poser ma question, ben il a pas pu répondre finalement. On m'a pas choisi. Mais la question que je voulais vraiment savoir le plus, et elle a pas été posée. Ensuite, tu étais là, toi, Steven, au masterclass.
Oui.
Donc, au masterclass, il y a quelqu'un qui a posé la question un peu, qui a parlé donc de son adaptation pour Insane, le jeu vidéo qui a jamais existé finalement.
Malheureusement.
T'sais, un an et demi là-dessus. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que il y a toujours de l'espoir pour Silent Hills? OK. Et je sais qu'il aurait débarqué. Il est très généreux dans ses réponses.
Ouais,
hein?
Ouais, ouais.
Il y a quelqu'un qui a posé une question à un moment donné pendant le festival. Puis finalement, c'est une question qui avait déjà été posée. Si tu écoutes le documentaire du film, puis ben, t'aimes-tu mieux les effets pratiques ou CGI?
Non, ça c'était niaiseux.
Puis ben, j'étais comme, mais crime, on vient-tu de regarder le même documentaire?
Moi, j'avais le goût de lever ma main après pour poser une question à Guillermo del Toro. Puis, yes, you. Puis il a dit, yeah, my question is actually for the previous guy who asked a question. I wanted to know if he actually watched the movie.
Mais tu sais, tu vois que même si le caché qui posait la même question,
il a quand même répondu. Il est super
très
généreux.
Bien répondu. Ouais. C'est des longues réponses qu'il donne, puis il est tellement fin. Là.
D'autres, on le décrit amicalement comme un simple gros geek.
C'est un gros geek.
Tellement intéressant, tu pourrais l'écouter parler pendant des heures.
Oh, gosh, oui.
Puis pour répondre à ta question, Oli, je crois personnellement que le projet P.T. est vraiment mort, mais que le prochain Resident Evil va prendre la relève de ça. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir la
j'ai
démo.
Pas joué, j'ai pas joué, mais j'ai vu la démo et je suis très heureux que ça soit en first person. On en discutera à un moment donné. Mm. Mais moi, qu'on retourne aux sources, là, vraiment d'horreur, puis fini l'action. Là, mais oui, Seigneur.
Non, il n'est pas fini l'action. Elle commence.
Ah, non, mais
parce qu'en ce moment, on a Hubert Gagnon en ligne et Marc Lamotte, co-directeur du Festival Fantasia, qui vient de se joindre à nous. Bonjour, Monsieur Gagnon, ça va bien?
Bonjour Simon, ça va très bien, merci. Vous pouvez m'appeler Hubert. Hein?
OK, ben c'était ma prochaine question. Oh, attendez, j'ouvrais le micro de Marc. Vas-y donc.
Bonjour Hubert.
Ah, ben voici Marc.
Bonjour Marc, ça va?
Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de planifier cet entretien-là.
Merci
beaucoup de te joindre à nous. Merci beaucoup d'avoir accepté le mandat.
Non.
Tu parles ici à des fans, tu le sais pas, mais tu es un gros fan club ici
en
ce moment.
Ben non, c'est un honneur de pouvoir parler comme ça avec du monde intelligent.
Non, ben, ben Hubert, l'honneur est à nous, hein, parce que pour ceux qui
non,
ignorent
c'est à
qui
moi.
Est. Non, non, c'est à moi, commence pas. Non, non, parce que là, pour ceux qui ignorent qui est Hubert Gagnon, Hubert est un doubleur québécois qui fait des versions françaises, donc, sur les films. Et là, pour vous donner une idée, là, il a doublé 297 acteurs pour un grand total de 500 films et séries wow. télé. Des doublages pour, c'est la voix derrière Homer Simpson, G.I. Joe, Les Aventuriers de l'espace, Les Amis Ratons, Les Calinours, Transformers, Astro, pour ce qui est du cinéma. Hey, là, il y en a, je résume, hein. An American Werewolf in Paris, Arachnophobie, Austin Powers, Batman, Braveheart, Cabin Fever, Child's Play 3, Clash of the Titans, Dark City, Gremlins 2, Jackie Brown. Regarde, ça finit.
Ben, c'est
plus.
La voix de Steven Seagal, c'est la voix de William H. Macy.
Oui, oui,
c'est Christopher Walken.
Comme là, je parle à Mel Gibson en ce moment.
Ah,
là,
c'est malade. C'est malade. Parce que c'est la voix de Mel Gibson qu'on connaît,
oui, ben
nous.
Oui.
On a grandi avec cette voix-là.
L'homme sans visage.
Moi aussi.
Vous aussi. Donc, wow.
Je ne savais pas. Je suis bien étonné. Ça me surprend.
Oui, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme.
Oui.
C'est parce que tu fais affaire ici à des gens qui ont découvert le cinéma en VHS dans des versions françaises. Donc, en quelque part,
oui.
on est plus proche du notre génération, on est plus proche du Mel Gibson que toi t'as interprété que du vrai Mel
oui.
Gibson. D'ailleurs, le premier Mel Gibson, il était doublé en américain, il parlait même pas en australien. Il était redoublé lui-même, même aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on a... Puis en plus, bon, les plus vieux,
en fait,
dont j'en fais partie.
En, il ouais. me double, je fais la voix, puis il me double avec Mel Gibson en anglais.
Ah oui. Donc pour ceux qui ne connaissent
écoute.
Pas Hubert aussi, il a joué dans une série très cool quand j'étais jeune,
oh,
Les Oraliens,
oui. Les Oraliens.
Qui a fait partie
oui,
de notre... Moi c'est comme ça que je t'ai découvert en fait.
T'es vraiment mais... très jeune hein?
Oui, oui, je suis vraiment très jeune. Puis c'est genre au troisième épisode des Simpsons, je dis, hey, c'est Picapo qui va faire Simpsons. Là on parle de l'époque de TQS il y a très longtemps.
Oui, oui. Mais il a fait beaucoup de théâtre Hubert aussi, t'as fait du théâtre longtemps.
Oui, oui, j'en ai fait jusqu'à à peu près la cinquantaine, beaucoup, 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 avec des grands metteurs en scène, comme André Brassard, avec qui j'ai fait une douzaine, quinzaine de productions. Oui, oui, j'ai été gâté là-dessus, là. J'ai été très privilégié, même, ouais. C'est là que j'ai appris mon métier, hein. C'est sur scène qu'on apprend pour un acteur. C'est la scène, c'est la plus grande école.
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Ben oui, c'est assez tough que si t'apprends pas, tu t'en vas chez vous.
Puis ce que j'aime, c'est que tu m'as déjà dit, en quelque part, que tu étais honoré de faire ce métier-là, même si tu étais un peu dans l'ombre, parce que en tant qu'acteur, tu n'aurais jamais joué dans 700 films, tu n'aurais jamais joué dans tous ces films-là.
Non,
ça t'a ouvert
fallu...
une carrière que auquel tu n'aurais même pas pu aspirer.
Ah non, absolument. C'est passionnant. Pour les acteurs, c'est passionnant. Mais je vais souligner une affaire que pas tout le monde se rend compte, c'est que le doublage, là, ça se fait à Montréal et nulle part ailleurs en Amérique du Nord.
Ah oui,
ah
hein?
Ouais.
Oui, et les acteurs de Montréal, même ceux de Québec qui viennent s'installer,
ouais.
c'est un apport pécuniaire pas négligeable, mais c'est aussi une façon de s'améliorer en tant qu'acteur d'une façon extraordinaire, exponentielle, puis c'est même pour les jeunes acteurs qui commencent une espèce d'outil, une espèce d'autre école, ça apprend à jouer vite en maudit, puis à saisir le sens d'une scène en très peu de temps. Et c'est un instrument pédagogique aussi. Non seulement ça fait
certain.
Bien vivre ceux qui en font beaucoup, mais on s'améliore comme acteur en faisant du doublage. On peut pas faire autrement.
Est-ce que c'est un peu frustrant? Parce que, bon, quand tu travailles sur un film, tu prépares ton personnage pendant 3 mois, chaque mot, chaque phrase, chaque intonation.
Oui.
Et en quelque part, tu penses à la psychologie du personnage parce que tu connais ses intentions. Alors que quand tu doubles, puis toi, en plus, tu doubles depuis les années 70, la technologie a dû changer depuis l'époque.
Oui.
Mais est-ce que c'est frustrant de pas pouvoir aller jusqu'au bout du rôle en quelque part?
Oh, c'est possible. Moi, la première partie de ta question, c'est qu'il faut se préparer. Des fois, on se prépare trop. On pense trop. On laisse pas assez de place à la spontanéité. On devient sclérosé par enfin, je dis ça, là. C'est un petit peu une boutade. Mais le fait d'être obligé d'être spontané, de travailler vite, on sort des trucs qu'on pensait même pas avoir des fois. Tu sais? Il y a quelque chose dans... C'est comme les improvisateurs en jazz. Ça prend pas des petits musiciens, mais il faut être... c'est autre chose que de jouer, par exemple, dans une symphonie qui est déjà écrite. C'est un peu du même domaine, mais moi, je me dirais que, bon, évidemment, moi, quand je joue, quand je double un personnage, je le vois devant moi, il fait la scène en anglais, c'est assez clair, je m'excuse, mais tu sais ce qu'il veut dire, puis comment il dit, puis quelles sont ses intentions, je l'ai d'en face. Alors que quand tu es devant un texte de théâtre, il faut vraiment tout inventer. Mais là, il me dit quoi faire, quoi. Mais oui, l'acteur me dit quoi faire. Mel Gibson me dit, gars, c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est pas 50 façons de le faire, là, tu sais. Si Mel Gibson est en poursuite dans... Little Weapon, c'est pas le temps de... c'est très bien qu'est-ce qu'il fait. Alors, t'as beaucoup, beaucoup d'informations. Le travail de recherche dont tu parles, par exemple, au théâtre, c'est sûr qu'il faut le faire. Il faut apprendre le texte, puis tu on n'en a plus cette... Mais il faut être rapide aussi, parce que, bon, les temps studio coûtent très cher, et on apprend à développer une... et à se faire confiance, puis à se dire, ben là, okay, vas-y, lance-toi, puis bon, avec le métier, souvent, c'est la spontanéité qui l'emporte comme moteur, plus que la préparation.
Est-ce que c'est un métier qui est schizophrène? Ou... Par exemple, une journée, t'es William H. Macy, une autre journée, t'es Steven Seagal, une autre journée, t'es Mel... Est-ce qu'il faut que tu retrouves ton Mel Gibson?
Ça devient naturel.
Ton air, lui, doit être naturel, mais certains personnages que tu joues moins souvent, c'est difficile de revenir dedans. Comment tu te prépares?
Non, je te redis, j'ai tellement d'informations quand je regarde la scène que j'ai à doubler, là, tu sais. Moi, c'est moi qui est imbécile, je comprends pas ce qu'il fait. Le ton qui prend et bon, je connais le film, habituellement c'est un premier rôle, j'ai vu des visionnements, j'ai le texte puis tout ça avant, et puis mais c'est une question d'observation. Il n'y a pas de non schizophrénie, j'ai pas de misère, je peux passer des fois dans un studio de personnage le matin, puis dans le même studio un autre personnage l'après-midi, ça arrive très souvent. Et des fois, trois, un petit rôle, quelqu'un te demande, hey, bon, j'ai telle heure, que je suis libre, j'ai le temps de me rendre. C'est ça fait partie de ce qu'il faut pour le métier. Je reviens toujours un petit peu à ce qu'a faire un musicien professionnel, par exemple. Tu peux avoir bon à jouer dans. Faire un commercial le matin, aller pratiquer quelque chose, une comédie musicale l'après-midi.
C'est vrai, un musicien, si on ne choisit pas, il peut faire du jazz à un certain moment donné, du rock dans un autre, du Céline Dion.
Oui, en effet.
Oui. OK, c'est une belle comparaison.
Oui, c'est celle que... Puis en même temps, la comparaison tient dans l'apprentissage, parce que les gens ne vont pas faire du doublage du jour au lendemain, même un bon acteur. Il y a une longue période d'apprentissage qui est équivalente à celle de l'apprentissage d'un instrument de musique. Hein. On va, t'assises pas sur un piano puis tu peux jouer du jour au lendemain, mais si t'aimes ça, le fait d'apprendre est un plaisir.
Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu Eric Salvaille dans ce
moment. Hey, pas de gomme ballon.
Mais là, Hubert, t'es là aujourd'hui parce que t'as été invité par Marc dans le cadre du volet Fantasia, doublage insolite.
Et oui.
Puis là, il va présenter La Patrouille en folie, la version française en québécois en joual de Ski Patrol. Toi, t'as participé au doublage de La Patrouille en folie, c'est ça?
Oui, mais heureusement qu'il m'a envoyé un extrait parce que je m'en souviens pas.
Ah ben là, c'est ça.
Il y a des choses qui s'effacent tout seul de la mémoire.
Il y a des films plus significatifs que d'autres, en effet.
Oui, heureusement.
C'est une journée de travail pour toi?
Doubler un mauvais film, là, c'est aussi difficile que doubler un bon film. Hein? Surtout avec des mauvais acteurs. C'est un gros travail.
Mais ça, d'ailleurs, c'est une de mes premières questions. Est-ce qu'on s'abandonne vraiment quand on joue un mauvais film, surtout en joual? Est-ce qu'on se laisse aller ou il faut vraiment se concentrer sur... C'est un personnage en joual, puis il faut le maîtriser, ou les films plus cheap, vous les jouez plus cheap?
Oh non, justement, ça paraîtrait. Parce que le doublage, ça ment. Tu sais, un mauvais doublage, ça ment pas. Si c'est raté, puis ça marche pas. Il faut autant de précision, puis autant... Il faut essayer, des fois, on peut améliorer un peu l'acteur qu'on double, mais tu sais pas, si le gars, j'ai été un niaiseux, il faut être un peu niaiseux en le doublant.
Mais...
En tout cas, c'est...
Oui, tu comprends. C'est normal aussi, faut pas trop...
L'adaptation puis la disponibilité vis-à-vis de ce qu'on a à faire, ça fait partie du métier. Ça, c'est inhérent, ça. Il faut absolument être prêt à faire à peu près n'importe quoi.
Puis le métier,
avec beaucoup de métiers, là, si tu te fais confiance, il y a quelque chose qui sort de toi, des fois, qui te surprend toi-même.
Parce que tu as vécu au niveau du métier un grand tournant aussi. Dans les années 70, on doublait en ce qu'on appelle le français québécois, le français international.
International, mais encore aussi.
Et
maintenant.
Encore aujourd'hui beaucoup. Cassé, ouais, mais il est arrivé les années 80 avec deux, trois grands succès comme Lancer Frappé. Et après ça, on s'est mis à faire plein de films en québécois. Et toi, tu as connu cette époque. Ben, justement, Patrouille en folie que je présente pour ça, parce qu'il est en joie à l'assumer. Est-ce que tu te souviens de cette période-là? Puis comment que le business a changé? Et pourquoi?
Ben, écoute, moi, j'étais habitué quand j'ai fait beaucoup de théâtre. Au début, je faisais du théâtre classique parce qu'il n'y avait pas de Michel Tremblay à l'époque. Je faisais du mon âge, là. Mais avec Michel, avec des créations québécoises, moi, je parlais au théâtre en québécois ou en français international dans des classiques. C'était aussi difficile l'un que l'autre. J'avoue, c'est pas plus facile en québécois. Sauf que, bon, les grands textes comme ceux de Michel Tremblay ou comme les grands textes français du Racine ou du Molière, c'est deux langues différentes, mais c'est pas, l'un n'est pas plus facile que l'autre. Ça, je t'avoue, faire Homer Simpson en québécois n'est pas plus facile que de faire Mel Gibson en français international. C'est au contraire, il faut être plus appliqué parce qu'il faut pas, faut sonner le vrai en québécois aussi. Hein. Mais il y a un certain abandon, j'avoue que...
Ben justement, moi, ma question, c'est comment c'est écrit? Parce qu'on sait, bon, le doublage, on a le texte qui défile en dessous du vidéo, puis il faut suivre suivre le rythme. Mais pour ce qui est...
Faut suivre la lettre qui passe.
C'est ça.
Oui, c'est précis comme ça. Puis quand tu dis un M, c'est la dernière boucle du M qu'il faut que tu ouvres ta bouche.
Okay? Ah oui, OK. Ouais,
c'est très phonétique. Précis.
C'est phonétique, c'est ça. OK, mais comment qu'on écrit du joual québécois? Est-ce que c'était plus difficile à lire?
On s'est ostiné là-dessus longtemps, disant, écrivez-le en français, on va le québéciser. Mais par exemple, avec les Simpsons, les adaptateurs qui sont très extraordinaires, ils écrivent en québécois. Mais il y a aussi, en langage international, si on a qu'est-ce qu'il fait là, ils vont souvent marquer K-K-S. Okay. Bon, qu'est-ce qu'il... ils écrivent maintenant en québécois, mais... C'est pas plus facile et pas plus difficile que si c'était... Oui, c'est écrit « mon maudit verra ». Pas une autre façon d'écrire « mon maudit verra ». C'est en français international. Donc, c'est pas... Non, c'est pas une écriture au son, là. T'sais.
OK.
C'est ça que je me demandais. C'est l'écriture française, les lettres normales. Mais... bâtard, ça s'écrit bâtard en québécois, comment? Il y a une façon de le dire qui est différente, tu sais.
Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que, à l'époque, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé les traducteurs à faire une batch de films, finalement, traduits en joual québécois? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui a causé ça?
Ben là, c'est la loi du marché. Si un lancé compte, par exemple, a marché, ou je sais pas, moi, Slapshot à l'époque, ça fait, ben, les producteurs décident de le faire en québécois. C'est une question d'argent, point final. Ouais. C'est l'intérêt. Ça, je comprends. C'est une industrie, là. On n'est pas, chez Frère du Sacré-Cœur. Heureusement.
Mais à travers les années, on sait que le marché du doublage en français a évolué beaucoup. On sait que par le passé, il y a eu des débats aussi entre la France, le Québec, qui fait les doublages, parce que c'est sûr que, hein, faut comprendre que pour l'industrie, doubler un film en France et au Québec, mais là, c'est des coûts supplémentaires, c'est sûr qu'ils sont pas très intéressés, mais à quel point les films sont encore traduits au Québec aujourd'hui?
Oh, je crois que la proportion est restée la même. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence. C'est qu'en France, il y a une loi qui fait que tout ce qui est doublé doit être doublé en France.
OK.
Ça s'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale parce que tous les doubleurs s'étaient installés à Londres pendant l'occupation allemande. Okay. Puis après ça, ben pour avoir les studios qui étaient tous à Londres, ils ont fait la loi que tout ce qui devait être doublé passé en France devait être doublé en France. Or, nous, on n'a pas cette loi-là au Québec. Okay. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a une ministre qui s'appelait Lise Bacon, que je remercie à genoux. Elle a décidé que la sortie d'un doublage en français ou français international au Québec devait arriver après 45 jours après la présentation de l'anglais. OK? Et ça, les Français n'étaient pas assez rapides pour faire ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on leur a volé une partie du marché.
Ah oui.
Parce qu'on était plus rapides qu'eux autres. Je te parle il y a 20 ans, là, 25 ans.
Oh, encore aujourd'hui.
Et donc, ça a développé toute l'industrie, puis ça a développé les doubleurs, les adaptateurs, les directeurs. Tout s'est amélioré très vite à ce moment-là. Il y a toujours une espèce de guéguerre... Ouais. Oui, mais les producteurs savent que, d'après les sondages, le public québécois aime mieux le doublage fait au Québec, okay, soit en français international ou en québécois. Parce que c'est pas juste la question de langue internationale, c'est l'adaptation. On peut parler un français international avec un auteur québécois, va nous le faire, ça va être un rythme différent de celui qui aurait fait un français. OK?
Ouais.
Puis on est nord-américains, nous autres, on est tellement plus près des Américains que les Français qu'on comprend l'esprit. Hein, plus facilement. On est nord-américain.
Ah, puis il y a quelque chose d'un peu, je te dirais, il y a quelque chose de plus fidèle, parce qu'en quelque part, oui, si tu vois un film qui est en slang américain où ça dit fuck à tous les trois mots, oui, ben, oui, la plus belle équivalence pour nous, c'est tabarnak, c'est pas
oui, oui, trop, viande, oui, ben, mais...
sacre bleu.
Tu sais, c'est de voir des blancs qui parlent foutu français.
Non, fuck, ça commence par c'est mon ton foutu, qu'on dit.
Ouais, voilà.
Mais ça vaut ce que ça vaut. Par contre, il... Non, les phoques, mais il n'y en a pas tant que ça, tu sais, dans les films. On essaie de trouver l'équivalent. Je me souviens pas qu'on ait eu de grands problèmes avec ça.
Mais ce que je cherchais à dire, c'est que l'équivalent du langage de la rue à New York, si tu traduis un film en québécois qui se passe dans la rue de New York, ben c'est plus fidèle de le faire en joual que de le faire en français international.
Mais c'est un piège un petit peu, m'a dit, parce qu'à ce moment-là, si tu le fais en québécois, tu dis... C'est comme si tu te présentais un film qui se passe à New York doublé par des Haïtiens.
J'avoue.
OK? Mmh. Tu dis, ben non, c'est correct, c'est du français. Mais non, c'est parce que ça enlève, tu vois que c'est à New York, par contre, c'est pas la langue de... Alors, à ce moment-là, faut absolument passer par le français international. À moins que ça soit, tu sais, une comédie, là, comme... justement, je reviens vers ce Slapshot, là, avec... je sais pas si tu viens de ça, là, c'est une...
Oui, truc, oui.
Ça, c'est un des premiers films à succès qui a été doublé en québécois. Et... mais sinon, il y a des choses impossibles à faire, là. C'est ça. Si ça se passe à Los Angeles avec un accent québécois, ça marche pas tellement. Alors, par contre, si ça se passe à Montréal, là, tu vas pas prendre un accent international.
Non, okay? Je suis d'accord. Puis Slapshot, c'est un bel exemple parce que ça se passe dans le monde du hockey. Et la plupart des hockeyeurs au Canada anglais et aux États-Unis, c'est des Québécois qui disent il y a rien là. Puis en anglais, ils disent there's nothing there.
Oui,
there's
nothing there.
Dans ce film-là, c'était parfait.
Oui, c'est vraiment une question de contexte, hein.
Voilà.
C'est une question d'histoire de film et puis. Mais, enfin, t'en fais un problème politique quasiment.
Mais j'en aurais une question politique, moi.
Oui.
De quelle façon est-ce qu'on sécurise un acteur? Parce que là, bon, on sait, Hubert, t'as joué énormément de Christopher Walken. Il semble que Christopher Walken au Québec, c'est la voix d'Hubert qui la double. Mais est-ce que c'est, à quel point c'est sécurisé, ça? Est-ce que, qu'est-ce qui fait qu'on va toujours te rappeler toi pour faire telle ou telle personne? Puis de quelle façon on peut le pousser?
D'abord, t'as nommé un bon exemple. J'adore cet acteur-là. Il fait n'importe quoi avec génie. En tout cas, mais c'est-à-dire que si une compagnie comme la Fox, que j'ai doublé, mettons Mel Gibson ou Christopher Walken, a entendu ce que j'ai fait, ce qu'il se mêle de faire avec raison, parce que c'est le producteur, puis s'il aime ça, pourquoi choisir autre chose? Et ils savent bien que les gens d'ici, le public du Québec, va s'habituer tranquillement à une voix pour un personnage. Si j'ai bien fait mon travail, ils vont pas me changer parce que, bon, s'ils sont contents, ils sont contents. Ça marche comme ça. Je dis, comme du vent de voiture qui marche, ben, le monde est content. C'est avant que si tu avais un bazou, ben, le monde va être, tu sais. Alors, ça veut dire qu'ils étaient contents de moi, puis que mon site de jeu allait avec Christopher Walken, avec Nick Nolte, que j'adore aussi. Mm-hmm. Là, ça me prend une composition effrayante. Mais j'ai toujours fait Nick, Monsieur Nolte, depuis, je me souviens plus quand.
Mais est-ce que t'as un contrat qui fait que...
Non, il y a aucun contrat. Non, ce qu'on veut, moi, puis ce que j'aime, c'est quand un directeur de plateau, parce que c'est eux autres qui, en principe, ont le choix, mais je veux dire, j'aime pas me sentir imposé à une production parce que j'ai déjà fait. Tu comprends? Oui. Des fois, j'aime bien, comme pour De Niro, on est peut-être deux ou trois à l'avoir doublé. Fait que j'aime ça qu'un directeur de plateau ait le choix, que je me sente pas imposé à lui parce que j'ai toujours fait. C'est sûr que si Mel Gibson, il y en a pas d'autres qui l'ont fait, il est obligé de me prendre, mais moi, je peux refuser aussi. Là. J'ai pas de contrat à vie avec aucun personnage. Okay, voilà. Okay. À chaque fois, c'est moi qui décide. Puis que Mel Gibson, que ce soit quelqu'un d'autre, ça me ferait plaisir. Puis je l'ai assez fait, il est bien fin. Mais... non, mais tu sais, c'est je pense que quand les gens sont satisfaits, mais si t'achètes une Toyota puis elle est bien bonne, mais t'en achètes une autre après, okay, puis tu changes pas de marque, c'est tout.
Cool. Ben c'est déjà le temps qu'on avait, c'est déjà tout le temps qu'on avait Hubert, malheureusement. Merci beaucoup, mais au pire on remettra ça. Ben oui, tout à fait. Ah, oui. On reprendra une heure ensemble. Oui, là.
Ben la prochaine fois, j'espère que j'aurai des souliers.
Est-ce qu'on aura la chance de vous voir à la projection de La Patrouille en folie présentant 35 mm le dimanche?
C'est mon problème. J'ai énormément... Je peux pas mettre de souliers.
Ah, du tout. Ben, c'est pas grave.
Pour aller en campagne, ça va. Pour me promener, ça va, mais c'est un... Puis je me guéris d'une maladie qui prend bien du temps à guérir, une infection au pied, là. Il faut que je prenne ça au sérieux parce que ça peut s'aggraver puis je vais me faire enlever des orteils, ça me tente pas.
Ah, c'est correct. Vaut mieux la santé avant tout. Mais merci beaucoup, Hubert.
Merci beaucoup.
C'est énormément. On va se reprendre.
Ben oui, c'était un plaisir. Ben bonjour à Marc aussi. Oui.
Ben certain. Mais okay. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez entendre la voix de Hubert Gagnon faire du joual québécois dans une comédie assez loufoque. Donc, ça se passe dimanche le 24 juillet à la Cinémathèque à 19h. Ouais. Et comme c'est à ne pas manquer, on va prendre une pause.
Je suis tout cœur avec vous, puis on va certainement avoir l'occasion de se reprendre.
Merci beaucoup, merci encore, Hubert. Merci énormément.
Bonne soirée. Ben, c'est un grand plaisir. Merci.
Merci.
Bonne soirée, tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Et comme il faut absolument y aller, on va écouter We Gotta Go, chanté par The Brains. On vous revient tout de suite après avec nos critiques du festival.
OK. Bye, les gars.
Merci.
De rien.
She's different. She's the girl with the power to turn you on, to turn you off. She's just what Satan ordered for a witch's holiday. She sparks a picture so unusual, only the theater can tell you the title. You don't believe in witches? You'd better believe in this one. She'll blow your mind. In Eastman Color, from Joseph Brenner Associates.
She will blow your mind.
Ah, c'est le fun, celui-là.
J'adore ça. On commence, on se lance avec nos premières critiques du festival, puis on se lance avec il semble être un gros morceau que tu as vu hier.
Oui, hier, c'est un film que je m'étais fait conseiller à plusieurs reprises, si tu dois aller voir ce film-là. J'aime pas me spoiler, j'aime pas trop savoir sur un film. J'ai vu les critiques qui décrivaient ça comme quelque chose d'étant beau. Il y a absolument rien sur Internet sauf deux images de ce film-là. Et l'image, bon, qui s'est promenée partout, c'est un homme, un vieil homme nu dans un bain.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a deux images, c'est tout. Donc, moi, je vais voir ce film-là et oh my God. C'est le...
Ça a l'air de t'avoir brassé.
Ça m'a... Oui. Quand tu vas voir un film et que tu ne t'attends pas du tout à ça, qu'il y a eu un impact sur moi, sur tout le monde dans la salle, je pense que personne ne s'attendait à ça. Écoute, c'est The Eyes of My Mother. OK. 2016, qui est réalisé par Nicholas Petschy, je crois, New-Yorkais. Synopsis... rapide, hein? je veux vraiment pas spoiler celui-ci. Donc, tu sais, en tant que tel, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, après avoir été témoin du meurtre de sa mère, donc la jeune Francesca, ici, qui est jouée plus tard en âge adulte, c'est l'actrice Kika Magalhaes. Finalement, bon, qui devient une petite fille vivant maintenant seule avec son père en campagne. Et elle a plus la même joie de vivre. Elle est, tu sais, veut pas, ça laisse une trace nésique, là, veut pas, là, d'avoir vu sa mère se faire assassiner devant elle. Les années passent et tout. Et là, elle, finalement, à un moment donné, mais son père va décéder, elle se retrouve seule. Donc, elle veut avoir quelqu'un dans sa vie, un compagnon, juste quelqu'un pour l'aimer, ne plus être seule. En tant que tel. J'arrête là, OK? Pas plus. J'ai presque rien dit parce que je veux pas.
C'est fou. Il y a personne qui ose rien dire sur le film, mais non. Tout le monde sort de là à quatre pattes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est justement ça que je veux pas faire parce qu'écoute, ce film-là...
C'est un film qu'il faut garder à surprise.
Il pourrait rentrer dans la lignée des Psychotic Woman haut la main. C'est le film, mon Dieu, depuis... avec une psychotic woman. Moi, tu sais comment j'aime les femmes psychotiques dans les films. Et écoute, c'est... on voit que le jeune réalisateur qui a 26 ans, il avait 25 ans quand il a fait ça, est très habile à jouer avec tes émotions. OK? Donc, cinématographiquement, c'est sublime. C'est un noir et blanc.
Il paraît que la direction photo est débile.
C'est des plans à tout moment dans le film. Moi, j'aime un film où on peut arrêter à n'importe quel moment et je peux encadrer ça et mettre ça sur mon mur chez moi. C'est de toute beauté, mais, Seigneur, pour la laideur qui est montrée là-dedans,
c'est rough.
L'acting... très, très bon.
Il paraît que tu as jasé avec l'actrice après le film.
J'étais tellement impressionné que je l'ai trouvée sur Facebook. Là, commencez pas à la stalker, tout le monde. Et même elle est Kika, qu'elle s'appelle. C'est son premier long métrage. Finalement, elle avait fait un vidéoclip avec Nicholas avant ça. Puis là, j'ai un film à te proposer. Puis elle a tellement été surprise. Je dis non, j'ai t'as aucune idée à quel point ta performance blew everyone away in the audience. Puis elle n'en revenait pas. Elle dit, mon Dieu, j'étais tellement insécure à savoir si ce que les gens étaient pour penser, puis tout. Puis elle disait que ce qui s'est passé à Sundance, parce que ça a donné une méchante tape sa gueule à Sundance, ce film-là. Là, pareil, c'est assez dur. Et quand je dis que c'est dur, malgré que c'est un film super beau, bien réalisé, l'histoire assez tordue, c'est que cette fille-là, sans trop en donner, son personnage, finalement, de Francesca, qui pour laquelle t'es vraiment, t'as de la pitié, t'as de l'empathie, mais aussi que t'as de la haine, t'as de l'incompréhension, puis en même temps, tu dis oui, mais she doesn't know better. C'est pas de sa faute.
T'es 32 chaises.
Mais elle fait des choses, puis c'est pas autant de la violence, c'est pas du gore, ce film-là, il y a quelques scènes, mais c'est pas ça du tout qui vient troubler, c'est vraiment le contexte. Il y il y a des choses qui se font, des mises en situation que je me dis, waouh, c'est la chose la plus méchante que tu pourrais faire vraiment à quelqu'un.
Ça prend tes émotions, puis ça les met dans le broyeur.
Waouh, tout le monde est sorti. Célia aussi Pouzet qui était là, qui est sortie, qui dit, ouf, je suis en train d'encaisser. Hein.
Cool.
Très dur et fortement recommandé. Il va être difficile à déclasser celui-là pour moi cette année. J'ai adoré ce film-là.
Cool. Vraiment, nous autres, moi, j'étais avec dans la salle avec Steven pour le film Démon. Yes. T'attends-tu de nous faire un petit synopsis?
Ooh.
Oh, t'étais pas prêt, hein?
Non. Tu me prépares surprise.
On va te casser.
Ben, en fait,
essaye-toi.
Demon, ça se passe... toute la durée du film se passe durant un mariage russe, si je me trompe pas.
Ouais.
Et c'est toute la famille de la mariée qui est là. Et elle se marie avec un Polonais. Puis pour lui, c'est un peu nouveau pour lui d'être dans ce milieu-là avec la famille puis de s'adapter...
Ça, c'est presque une des premières fois où il rencontre le père de la famille, je pense, pour la première fois au début du film. Ouais, c'est ça.
Fait que toutes les préparations du mariage se font et durant une bonne journée, il va tomber par hasard sur un trou derrière la maison où il va trouver des ossements et ça va le chambouler, le trotter tout le long de la soirée. Et au fur et à mesure que la soirée va avancer, ils se marient, tout va bien, le monde boit de l'alcool, tout le monde s'amuse, il va commencer à avoir une apparition d'une étrange mariée qui apparaît de manière très surnaturelle dans la place, qui va commencer à venir l'hypnotiser, le déstabiliser. Et va s'en suivre un changement chez lui. On va commencer à se dire qu'il commence à être possédé par cette fameuse mariée mystérieuse.
Je t'arrête là.
OK.
Je t'arrête là parce que je pense qu'à partir de là, faut pas aller trop loin. Parce que ce film-là, tu vas être d'accord avec moi, Steven, c'est un puzzle. La première heure, elle se développe assez simplement, assez... c'est exactement ce que je viens de raconter. Les choses se passent une après l'autre. C'est assez linéaire, quoique très beau, quoique très étourdissant, comme mariage. Hein? Mais à un moment donné, là, on dérive... au bout de 40 minutes, je dirais, là, on dérive, là, puis là, ça prend une autre tournure, puis ça déraille complètement, puis là, c'est étourdissant jusqu'à la fin du film. Comment t'as aimé ça, toi, Steven?
Moi, ça m'a pris par surprise, j'ai adoré, parce que, honnêtement, comme tu dis, les 30 premières minutes, on est assis sur un genre de confort, on sait aussi que ça s'en va, on a déjà vu la formule, et là, le film commence à prendre des directions différentes, à nous déstabiliser, à nous offrir des pièces de puzzle.
Des malaises. Ouais.
Et là, on essaie juste de comprendre et d'essayer de replacer un peu ça au courant du film, et ce qui m'a le plus malaisé, c'est qu'entre ça, il y a un humour constant, il y a beaucoup de comic relief. Au début, j'étais pas certain, mais à un moment donné...
Comme le curé.
Ça, le curé, qui est vraiment hilarant là-dedans.
Il veut juste s'en aller, il veut pas aider, il veut juste s'en aller.
Qui est tout en train de dire qu'il est correct, mais il est archi saoul, il a tellement trop bu. Mais ça m'a fasciné, le jeu de l'acteur principal... qui est tout dans son physique, aucun effet pratique pour les moments de possession qui commencent à bouger étrangement durant la danse.
Non, il n'y a pas de maquillage, là, c'est ça.
Tout est fait par lui-même.
C'est pas un film d'horreur comme tel. Il y a un fond d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur. C'est plus fantomatique, plus atmosphérique.
Oui.
C'est vraiment un film de folie, slow burn horror qui va se développer au sein du mariage où les gens sont de plus en plus sous puis ils commencent à perdre la tête. Mais là, ce qui est intéressant, c'est... Puis, je pense pas trop en dire à ce niveau-là, mais où ça déraille, c'est quand là, nouveau marié commence à être possédé, puis t'as le père de famille qui veut sauver la face là, devant toute la famille, puis essaie de le cacher, puis de saouler toute la famille en train de danser, puis ça, il faut pas que ça paraisse. Je veux que tout le monde ait du fun, puis là c'est lui, il a dit, ah ouais, go, amène les caisses d'alcool, go, je veux que personne s'en rende compte. Mais pendant ce temps-là, t'as le chaos dans l'autre pièce parce que l'autre est en train de péter un plomb, là, puis j'en dis pas plus. Mais ce qui est surprenant de ce film-là, c'est que c'est très Kubrick. Hein? Oui. C'est très Shining. Hein? Pourquoi je dis ça?
Okay.
C'est que c'est un puzzle. La première partie, comme je dis, c'est très linéaire, puis à un moment donné, ça se transforme en puzzle. puis on te laisse avec des morceaux manquants. Oh, c'est toi, à ça, toi de te faire ton idée.
C'est correct,
il y a des choses que j'aimerais dire que je dirais pas, parce que je veux pas le spoiler. Et fait intéressant, ben intéressant, malheureusement très dramatique et triste. Le réalisateur, quelques jours à peine avant la première du film, a été retrouvé suicidé, pendu dans sa chambre d'hôtel.
Okay.
Donc, quand on sait ça avant la projection aussi, le film prend une lourdeur supplémentaire. Parce que je dirais pas que j'ai eu cet effet-là en le regardant, mais en y réfléchissant après coup, parce que croyez-moi, c'est un film auquel vous allez avoir besoin de réfléchir et discuter longuement et revoir pour comprendre ce que vous venez de voir, et peut-être qu'on ne comprendra jamais. Mais moi, j'ai eu l'impression vraiment que c'était peut-être en quelque sorte une réflexion peut-être du mal de vivre du réalisateur. Mais c'est la réflexion de beaucoup de choses. C'est un miroir de beaucoup de choses. Parce qu'outre, on dirait que la possession dans le film, qui est en fait la légende polonaise du D-Book, hein, on avait parlé avec... eux autres l'appellent comme ça. Nous, on va l'appeler des poltergeists. Eux autres vont l'appeler le D-Book.
Hein. C'est la boîte, là, oui.
Ouais, bon, non, mais c'était la boîte, mais en fait, le D-Book, c'est une légende polonaise. Ils vont utiliser ça, mais finalement, c'est un gros symbole. Moi, j'ai essayé de fouiller, j'ai essayé de me faire une idée sur le film, là, mais au final, c'est très difficile. Moi, je suis convaincu que ça tire son inspiration ou qu'il y a un message sur l'Holocauste. C'est le seul Polonais à travers les Russes qui cherche son identité, qui cherche sa place à travers toute cette famille-là qu'il connaît pas. Puis c'est très... c'est un gros message, je crois, sur la Pologne moderne qui cherche sa place post-Holocauste. Mais t'as aussi... le père de famille, à un moment donné, qui dit « Notre beau pays repose sur les cadavres ». C'est un paquet de petites phrases comme ça qui sont truffées à travers le film, qui te donne des codes, qui te donne des signes, mais à toi de te faire ta propre idée sur la finale. Je vous le dis, là, la fin, là, je vous garde la surprise, okay, mais c'est surprise à voir, mais vous avez aucune idée où ça s'en va.
Je suis hype, j'ai
on
j'ai
a fini le
voir.
Film, moi puis Steven, j'ai on a aucune voir. Idée où c'est parti. C'est vraiment, c'est à se faire
mais
une
la
grosse analyse.
Quand même prévoir ça, la bande-annonce, je me souviens quand j'ai vu ça, ça a l'air d'une comédie au début, puis là, ça prend un autre tour.
Mais même, ça prend un tournant inattendu à la fin.
C'est ça qui m'intrigue beaucoup.
C'est très inspiré des vieux films de Lars von Trier aussi, ou la folie, comme des films comme Les Idiots aussi. Okay. Ça prend une folie assez surprenante dans le party.
Peut-être un peu Polanski aussi.
C'était Répulsion un peu, je dirais, c'est vrai. Oh. T'as pas tort.
Ah, ben c'est drôle parce que Eyes of My Mother, c'est un Répulsion, ça.
Ah,
c'est...
Oui.
Cool, ben, Herzog aussi filme bien la folie.
C'est vrai, Herzog. Il est excellent. Ouais, ben en tout cas, moi c'est un film que je suggère, mais je l'avertis, c'est un film à analyser, c'est un film, tu sors de là un peu choqué de pas avoir eu ton punch, puis là t'as hâte d'aller en parler autour d'un verre. Peut-être qu'on pourrait aller vers une note plus smooth, un peu plus relax. On a vu, moi aussi, moi puis Steven, on a vu Hunt for the Wilder People.
Mm-hmm.
Tu veux-tu tenter sur le synopsis ou je m'essaye?
Ah, vas-y, bon.
Vas-y, ok. C'est assez simple, en fait. C'est assez straightforward. On a un jeune orphelin qui s'est, tu sais, bon, il fait beaucoup de mauvais coups. Puis, bon, le Child Welfare, dans le fond, il trouve une nouvelle famille. Pour lui, c'est un film de Nouvelle-Zélande. Donc, ça se passe en Nouvelle-Zélande. Il se ramasse chez un petit couple qui est, en fait, dont le père de, le père, c'est pas un père encore, là, mais disons ce qu'il va devenir, il l'appelle oncle dans le film. Donc, c'est joué par Sam Neill, qui est toujours excellent.
Vraiment,
c'est toujours jouer avec brio, encore une fois il surpasse. Donc Sam Neill et la mère, qui est elle aussi adorable, toute la caste est adorable d'ailleurs, là on y reviendra. Là, il est lâché là dans la famille, il veut pas être là, c'est un petit bum. Finalement, ils sont tellement attachants, puis tellement fins, puis ils se sentent tellement le bienvenu. C'est comme une soupe réconfortante, là, cette maison-là, qui, au bout de deux jours, il sent bien. Mais au bout de deux jours, la mère décède. On sait pas trop, peut-être une crise cardiaque ou tout ça, ça arrive, hein. Fait que là, ils veulent revenir chercher l'enfant, parce que là, ça fait juste deux jours, là, puis là, le deal là, vient de changer, là. Tu peux pas regarder le kid. Anyway, dès le départ, lui, il voulait pas le kid. Ça se voit tout de suite dans sa face, sac ma patience, va-t'en. Sauf que là, le kid, lui, qui veut pas retourner, lui, il va retourner, comment t'appelles ça déjà, juvies, la prison pour les jeunes, là, finalement.
C'est une recette commune. Là. On a vu un paquet de fois des films comme ça.
Oui, mais t'as jamais vu un bon film comme ça sur le sujet.
Le jeune acteur avait l'air vraiment très à l'aise. Même faisait
rire. Il est vraiment drôle.
Ouais. Mais là, en fait, tout ça, c'est l'intro. Parce que là, le kid qui veut pas retourner, il veut pas repartir. Lui, il veut rester là. Décide de se sauver dans le bois. Se faire retrouver par son oncle Sam Neill. Et finalement, les deux décident de partir à travers les bois puis pas revenir. Et s'ensuit une chasse à l'homme pour retrouver les deux. Là, il y a des histoires. Ils savent pas pourquoi ils se sont sauvés. Fait que là, ils pensent, ah, c'est peut-être un pervers qui l'a kidnappé, puis nanana. Mais les deux veulent juste partir puis vivre leurs petites affaires ensemble. Veulent juste pas vivre leur retour à la maison. Lui, il veut vivre son deuil puis tout ça. Mais quel film superbe. Là, leur chasse à l'homme dure des mois. OK, c'est pas une histoire d'une semaine, ça dure des mois et c'est tellement beau, j'ai capoté. C'est un film pour inviter une date. Ça, c'est clair.
Vraiment, c'est un film...
C'est drôle.
Dis la manière que tu as raconté l'histoire, c'est un film qui semble quand même assez difficile parce qu'émotionnellement, ouais, le deuil du père, tout ça, puis le jeune qui n'a jamais vraiment eu de famille stable, ça touche plusieurs thèmes assez...
C'est vrai, je l'ai dit lourdement. Hein?
Lourdement, mais c'est traité avec une légèreté et un plaisir. C'est vraiment un road trip d'aventure où ça mélange humour, action et drame, mais jamais trop, tout est super bien dosé et Sam Neill, comme tu disais, est incroyable dans ce film-là. Honnêtement, ça m'a pris au moins un bon 10 minutes avant de le reconnaître avec sa barbe, son chapeau.
Il est méconnaissable.
Je crois qu'il donne des un peu.
Ah ouais, hein?
Non, même sur le poster, j'ai non.
Non, du tout, mais... Franchement, et là on perd du temps là. Il nous reste 12 minutes pour on a parlé de trois films, mais sérieux là, c'est un film que je suggère fortement. C'est beau, direction photo extraordinaire de Nouvelle-Zélande. C'est très drôle, c'est hilarant, c'est attachant, c'est touchant. Je le propose fortement. Et d'ailleurs, le film sort en salle ce vendredi. Oh. Hunt for the Wilder People. C'est un film à aller avec votre blonde. Manquez pas ça. C'est vraiment un gros hit. Olivier, ça tente-tu de lancer le... Ah ben non, Steven, lance donc le prochain.
Ouais.
OK, je vais y aller rapidement avec celui-là. J'ai eu la chance de voir In the Valley of Violence, le nouveau film de Ty West qui s'attaque cette fois-ci au western. J'adore ce réalisateur-là. Je crois que c'est un des meilleurs de sa génération. Il essaie tout le temps d'aller dans un style différent. Il nous avait offert House of the Devil.
Oui.
Ensuite, The Innkeeper, film de fantôme.
Oui, moi, j'avais bien aimé ce film-là.
Et le old school, tu sais. Oui. C'est un artisan qui aime la vieille façon de faire des films, qui refuse le CGI. Oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour sa façon de travailler.
Puis c'est exactement dans les détails où aller chercher pour jamais sombrer dans le l'hommage tape à l'œil. T'sais, on va être tout le temps dans des films qui vont respecter les codes, le genre, mais il va avoir son propre style. Quand tu écoutes un film de Ty West, tu le sais que tu l'écoutes. Et c'est un western qui raconte l'histoire d'un vagabond et son chien. Qui est en route pour aller au Mexique, vivre un peu sa nouvelle vie. On ne sait pas trop pourquoi, c'est très ambigu. Et durant sa route, il va tomber sur une petite ville un peu bordélique où que se côtoient des criminels, des bandits. Et malheureusement, il va se faire un peu harceler par un groupe de malfaiteurs qui vont vouloir un peu lui mettre des bâtons dans les roues, ce qui va entraîner un cycle de violence, si on veut, qui va finir par avoir une répercussion de vengeance l'un de l'autre. Je veux pas trop entrer dans les détails parce que c'est un film quand même très minimaliste. C'est pas un scénario très élaboré, mais en même temps, Ty West a voulu nous offrir un bon vieux western classique, la bonne époque de Sergio Leone, Corbusier aussi, le générique qui nous rappelle automatiquement le bon, la brute et le truand. Oh, déjà okay, là, oui, j'avais la chair de poule. Oui. C'est merveilleux.
Beaucoup de sommage, ça.
Le casting aussi est merveilleux. On a notre vagabond qui est joué par Ethan Hawke, qui, depuis une couple d'années, moi, je trouve que c'est un acteur formidable dans Prédestination qui a passé au Fantasia. Oui. Il était génial.
Mais tu trouves qu'il a la physicalité pour jouer dans ce western du siècle dernier?
Honnêtement,
je te pose la question sérieusement.
J'étais très sceptique, mais sa relation avec son chien et son côté très Clint Eastwood, j'avoue qu'il a été chercher un peu son inspiration-là, fonctionne, puis on s'attache au personnage, on s'attache surtout au chien. Le réalisateur se concentre sur son chien, puis on s'étonne pas. Il y a John Travolta aussi qui joue le shérif là-dedans, qui est un peu le méchant principal, en guillemets, qu'on peut dire. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas vu John Travolta dans un bon rôle. Malheureusement, sa carrière descendait à pic. Et là, on a enfin un John Travolta. Ah ouais.
En fait, c'est pas avec un bon rôle, c'est avec un bon réalisateur.
Un bon réalisateur.
Il dit quoi faire.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Travolta, c'est un bon outil. Il faut quelqu'un qui sache le bannier.
Exactement.
Christopher Walken, ben, tous les acteurs, dans le fond, je pense. Ouais.
Un réalisateur, c'est nécessaire qu'il soit capable de bien diriger ses acteurs. Sinon, ils sont perdus, ils ne savent pas trop exactement. Fait que ça peut créer des malaises. Mais sinon, la musique aussi, le soundtrack qui est fantastique. C'est un soundtrack que je recommande. C'est très... très typique, justement.
Ennio Morricone,
qu'on va avoir un thème à la guitare, et ça va être contrebalancé avec un soundtrack plus atmosphérique, plus horrifique, parce que c'est du Ty West, et parfois, il sort de sa zone de confort, et par moments, on a des scènes très oniriques, et qui nous déstabilisent, qui sont vraiment proches d'un film d'horreur, je veux pas trop en dire non plus. Et je vais finir avec un dernier point très important, le côté très rafraîchissant de ce western-là, qui est sans doute la touche principale de Ty West dans celui-ci, l'humour. Il y a un humour constant sur toute la durée qui fait mouche dans les dialogues. C'est merveilleux, même dans les moments plus hard, plus difficiles, qui sont très violents, parce qu'il y a quand même des scènes assez gore dans le film, merci. C'est vraiment drôle, puis c'est bien dosé. On va rire à des moments qu'en temps normal, on est en train d'avoir la chair de poule à se dire « Oh mon Dieu, il est pas en train de faire ça pour de vrai. » Puis deux secondes après, il nous balance un dialogue tordant, puis la salle s'est mise à rire. Honnêtement, moi, ça a vraiment été une belle surprise. Ty West a montré encore une fois qu'il est à l'aise autant dans d'autres genres, puis qu'il est polyvalent. Puis c'est un réalisateur à surveiller.
Cool.
Merveilleux.
Merci, Steven. Malheureusement, on achève déjà le show. De toute façon, on va se reprendre la semaine prochaine. Steven, t'es de retour la semaine prochaine avec nous autres?
Oui, ça me ferait plaisir.
Certain, yes. Donc, on va se reprendre la semaine prochaine. On n'a pas d'entrevue. On va avoir une heure en entier à se concentrer sur les critiques. On va pouvoir aller un peu plus dans le détail, en parler de plus, parce qu'il y a beaucoup de films que j'avais hâte de parler, qu'on a déjà vu. Beware the Slenderman, Creature Designers, qu'on n'a pas mentionné. On va y revenir. The Love Witch qu'on a vu, moi,
Rupture.
Rupture. Fait que, tout ça, on va en parler la semaine prochaine. Par contre, il y a deux films que j'ai vus qui vont être projetés, un demain, un peu plus tard cette semaine. Je veux juste faire une petite mention. On a parlé avec Simon Laperrière de We Are the Flesh. J'ai eu la chance de le voir hier. Attachez votre tuque avec de la broche. Oui. Si le film Eyes of My Mother a brassé Olivier, We Are the Flesh va brasser, mais pour d'autres raisons. Là, hein? Là, quand il a dit que c'est 18 ans et plus, là, il n'exagère pas. Cœur sensible, s'abstenir. Là, on parle de... Hey boy, je le dis-tu? Oh, je vais le dire. Oui. Je vais le dire. Je vais juste énumérer à quoi s'attendre. C'est dans le synopsis de toute façon. Inceste, orgie, cannibalisme, nécrophilie. Ok, mais là, je te parle pas d'installation gratuite, ok? Mm-hmm. C'est un voyage. Oui. We Are the Flesh, c'est un voyage onirique, assez particulier. C'est pas facile, c'est poétique. Il y a un message là-dedans décortiqué. Moi, j'ai passé la journée entière à essayer de le décortiquer pour vous autres. Je pensais en parler plus aujourd'hui, mais finalement, je vais attendre que tout le monde le voit.
Oui, je l'écoute, puis
lui,
toi,
tu vas le voir.
Oui.
Puis on en reparle la semaine prochaine ensemble. Mm-hmm. On va l'analyser ensemble. Mais là, je vous le propose. Ok, c'est un film à découvrir, mais pas pour tout le monde. Hein? Ça brasse, c'est raide, mais c'est à découvrir. Moi, c'est beau, c'est tellement beau. Toi qui tripes sur l'éclairage Argento, là, tu vas adorer ça. Sur ce, c'est déjà la fin de l'émission. Tout d'abord, merci Marc Lamotte
merci,
de nous
Marc.
Avoir amené Hubert.
Merci.
C'était par téléphone, c'était fort apprécié. Merci Steven de te joindre à nous pour la durée du festival.
Ben c'est moi qui vous remercie. C'est, comme je le disais, un honneur de pouvoir participer aux oubliettes.
Parfait, c'est un plaisir de te recevoir. Oui. Hein. Donc, si vous voulez le suivre aussi, podcast Horror Gamer. Oui. Merci Olivier, comme toujours. Et on a encore une fois une paire de billets à faire tirer pour le festival. Mm-hmm. C'est simple, vous m'envoyez un courriel à predge@hotmail.com avec une réponse à la question suivante qui est très simple. Outre Homer Simpson, qui Hubert Gagnon a déjà doublé? C'est tout simple que ça. C'est facile, là. Comment?
C'est une question, ça va être qui le plus vite, là?
Comme ça, après ça, parmi ceux qui ont répondu correctement, je tire au hasard un gagnant dans les trois prochains jours. Parce que là, faut pas niaiser, là. Le festival, c'est maintenant. Faut en profiter.
C'est là, ça se passe. Puis pour ceux qui écoutent live, je vous demande de venir me rejoindre dans 1h10 à la place de la paix parce qu'on présente les hommes d'une autre planète.
Ben oui, la semaine passée, je m'étais trompé.
C'est ce soir. C'est peut-être un des meilleurs pires films de tous les temps.
Ça va être
malade. Les gens, ils ont même pas badré d'essayer de traduire les textes originaux.
Ils ont tous écrit des nouveaux textes.
Ils ont tous écrit des nouveaux textes en fonction de ce qu'a l'air de se passer. Écoutez, vous allez rire.
C'est malade.
Vous avez un Ultraman à Saint-Saëns. Vous avez... Écoutez, I rest my case.
Ça n'a pas manqué.
Face, voilà.
Moi, je dirais, en tout cas.
Vous pouvez me rejoindre. On va être là. On commence la projection vers 9h15. Donc, il vous reste 1h15. Prenez le taxi, prenez votre vélo, prenez le métro.
C'est gratuit.
Venez-vous-en, c'est gratuit. À Belle Étoile. C'est dehors à Belle Étoile. Ouvrez-vous une grosse bière, puis regardez le film. Vous allez avoir du fun en tabarnak, je vous le jure.
Plaisir garanti.
Marc, merci beaucoup.
De rien.
Fantasia en entier, merci beaucoup. On se laisse sur une dernière chanson, Distant Dream, de l'album Lost Theme 2 de John Carpenter. Yes. À la semaine prochaine. Bon festival.